carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Nous avons mangé de la soupe, du poisson, des pommes de terre au lard, de la salade anglaise. Nous avons bu de la bière anglaise. Les enfants ont bu de l'eau anglaise.
Vous écoutez des extraits tirés de la pièce « La cantatrice chauve » d'Eugène Ionesco.
Dans ma chambre à coucher, j'ai un lit. Ce lit est recouvert d'un édredon vert. Cette chambre avec son lit et son édredon vert se trouve au fond du corridor, entre les water et la bibliothèque, chère madame.
Oh mon Dieu, comme c'est curieux. Ma chambre à coucher a elle aussi un lit, avec un édredon vert, et se trouve au fond du corridor, entre les water, cher monsieur, et la bibliothèque.
Comme c'est curieux, bizarre, étrange. Nous habitons dans la même chambre et nous dormons dans le même lit. Mais c'est peut-être là que nous nous sommes rencontrés.
Je suis la bonne. J'ai passé un après-midi très agréable. J'ai été au cinématographe avec un homme et j'ai vu un film avec des femmes. À la sortie du cinématographe, nous sommes allés boire de l'eau de vie et du lait. Et puis après, on a lu le journal.
Ma femme a toujours été romantique.
C'est une véritable anglaise.
Voilà.
Oui, ma femme a toujours été romantique.
C'est une véritable anglaise.
Voilà.
Oui, ma femme a toujours été romantique.
C'est une véritable anglaise.
Voilà, le bouquet.
Oh, il y a bien aussi, mais c'est assez rare, une asphyxie au gaz ou deux. Oui, ainsi une jeune fille s'est asphyxiée la semaine dernière. Elle avait laissé son gaz ouvert.
Elle l'avait oublié.
Non, mais elle avait cru que c'était son peigne.
Bonjour et bienvenue dans cette émission. Nous parlons d'une formidable légende qui dure depuis plus de 50 ans avec Jacques Legret. Bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous dirigez le théâtre de la Huchette.
J'ai dirigé. Je suis maintenant, c'est le privilège de l'âge, directeur honoraire.
Honoraire, voilà. Excusez-nous. Alors, c'est l'histoire de deux pièces phares du dramaturge Eugène Ionesco, La cantatrice chauve et La leçon, dont nous allons particulièrement parler puisque nous célébrons cette année en 2009 le centenaire de la naissance de Eugène Ionesco, grand dramaturge, membre de l'Académie française. Évidemment, le théâtre de la Huchette n'a pas vu passer que les pièces d'Eugène Ionesco et que les comédiens de ces pièces, mais de grands noms, de très grands noms, de grands projets dont vous allez nous parler. Alors, j'ai une première question pour démarrer cette interview. Cette histoire qui dure là depuis plus de 50 ans, c'est-à-dire que là, au théâtre de la Huchette, tous les soirs, on joue les pièces d'Eugène Ionesco. Comment a-t-elle démarré ? C'est-à-dire que toutes les histoires, on le sait, démarrent quelquefois bien et démarrent quelquefois mal.
C'est-à-dire, La cantatrice chauve a été créée en 1950 au Théâtre des Noctambules, qui était également dans le Quartier Latin, mais qui n'existe plus, mise en scène par Nicolas Bataille. La leçon a été créée l'année suivante, en 1951, au Théâtre de Poche, dans la mise en scène de Marcel Cuvelier. C'était les deux premières pièces de Eugène Ionesco et c'était donc ses deux premiers metteurs en scène. La cantatrice chauve, Eugène l'avait envoyée à beaucoup de metteurs en scène, de directeurs de théâtre. Tout le monde avait dit « c'est injouable ». Et par le biais d'une amie commune à Eugène et à Nicolas Bataille, le texte est arrivé dans les mains de Nicolas Bataille, qui était un tout jeune metteur en scène en 50. Et c'était ce qu'il cherchait, parce que jusque-là, il n'avait monté que des adaptations ou des montages de textes non théâtraux existants. Et c'est ce qu'il cherchait. Il disait que le cinéma avait évolué, la peinture avait évolué, mais le théâtre, on était toujours resté un théâtre très traditionnel. Il cherchait quelque chose qui fasse exploser le théâtre. Et il l'a découvert en 50 avec La cantatrice chauve. Ça a été joué donc pendant un mois à 18h au Théâtre des Noctambules. La critique a été unanime, c'était à quoi sert ce spectacle, à quoi parler de bon, parler d'un auteur dont on ne reparlera jamais.
Très mauvais début.
Oui, oui. Et puis, ces jeunes font perdre des spectateurs au théâtre. Vous voyez, tout le monde peut se tromper.
Nicolas Bataille voulait un point de rupture, on pourrait dire que c'était gagné.
Bah, c'est-à-dire, il voulait un point de rupture, non, parce qu'il s'est dit, bon, ben, il n'a jamais pensé qu'il s'était trompé, mais il s'est dit, bon, je suis en avance, c'est tout. Alors, les seuls qui ont été intéressés, c'est des intellectuels, en particulier de chez Gallimard, comme Queneau, etc., qui sont venus, qui ont adoré, et qui ont envoyé quelques amis, mais enfin bon, il n'y a pas eu beaucoup de monde. La leçon, ça a été à peu près pareil. Après, il y a eu les chaises qui ont été créées au Théâtre de Lancrie, etc. Ça a commencé. Bon, et petit à petit, les spectateurs sont habitués. Et en 52, fin de 52, il y a eu une première reprise des deux pièces. Nicolas Bataille et Marcel Cuvelier se sont mis d'accord pour les reprendre au Théâtre de la Huchette. Et là, ça a bien marché. Seulement, le théâtre était pris après. Donc, ils ont été obligés d'arrêter. Et ils ont repris encore 3 mois, début 53. Et ça a encore très bien marché, mais bon, le théâtre, avec son directeur, ils avaient des engagements. Et en 57, quand ils ont repris bon, pour 1 mois, et puis le théâtre était libre, ils ont continué, et puis 3 mois. Puis ils se sont dit, ben, on va continuer l'été, et puis ben, on va continuer la saison prochaine. Et puis d'année en année, on est toujours là.
Et le spectacle dure.
Le spectacle a toujours continué.
Depuis plus de 50 ans. Est-ce qu'on pourrait revivre une histoire similaire aujourd'hui? Parce que vous, vous êtes drôlement battu pour qu'elle puisse exister, ces pièces.
Oui, on s'est battu, oui. D'abord parce que, bon, les comédiens ont formé une compagnie, c'est-à-dire qu'ils se sont payés en dehors des normes syndicales. Je ne sais pas si ce serait possible.
On ressent que c'est une histoire de famille presque,
c'est devenu
de véritable conviction, d'envie.
Oui, c'est devenu une histoire de famille. Bon, d'abord, à cause de la durée, bon, on a tous vécu les naissances, les mariages, les morts, hélas, enfin tout, quoi. Donc, et puis, il y a eu le fait que en 1974, je crois, le directeur, c'est dans le livre, mais je ne me rappelle plus exactement la date, est décédé, le directeur précédent, M. Pinard, que son fils a cru hériter d'un théâtre et de pouvoir vivre de ce théâtre, mais l'ancien propriétaire, il faisait tout. Il faisait la caisse, il faisait le ménage, il faisait les travaux, donc le peu qui restait pour le théâtre, de la part du théâtre, ça le faisait vivre. Tandis que là, bon, Monsieur Pinard n'étant plus là, il a fallu engager une caissière, engager un régisseur, etc. Donc, ce qui restait, ça partait dans les salaires, donc il ne touchait rien. Alors, il a essayé de nous faire partir pour vendre le local, pour faire un restaurant de plus dans la rue de la Huchette. Alors là, on s'est beaucoup battu, on a fait intervenir la ville de Paris, le ministère, puisque le théâtre était classé, qu'il y avait eu une loi comme quoi il fallait une autorisation du ministère pour déloger un théâtre. Ça n'a pas pu être fait, donc on est resté finalement. On a quand même obtenu un bail. On a racheté le fonds de commerce, et puis voilà. Mais ça a duré 7 ans. Pendant 7 ans, comme à la mort de son père, il avait juste demandé qu'on gère le spectacle UNESCO. On était là, mais on ne pouvait rien faire. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas monter d'autres spectacles. On ne pouvait pas faire de travaux. C'est-à-dire que les fauteuils se cassaient les uns après les autres. On mettait des tabourets. Enfin, voilà.
Un parcours du combattant. Et à l'époque, je lisais dans le livre qui s'intitule « Le fabuleux roman du théâtre de la Huchette », publié chez Gallimard, de Gonzague Philippe, que les comédiens, à l'époque, jouaient sans décor et sont quelquefois transformés en hommes sandwich pour vendre le spectacle.
Ah, ça, c'est à la création en 1950
au Noctambule.
Au Noctambule, oui, il n'y avait pas de décor, c'était dans les rideaux. Les costumes avaient été prêtés par Claude Autant-Lara, qui venait de tourner « Occupe-toi d'Amélie » de Feydeau. Et comme Nicolas avait situé la cantatrice Chauve dans les années 1880, donc il avait prêté les costumes. Et il faisait le boulevard Saint-Michel l'après-midi en distribuant des tracts pour venir au Noctambule à 18h. Ça, c'est à la création. Nous, on ne l'a jamais fait à la Huchette. Mais je veux dire qu'à la Huchette, ça a été pratiquement plein dès la reprise en 57, toujours plein. Et ça n'a jamais cessé. Bon, il y a des petites baisses saisonnières, en particulier le premier trimestre, parce que comme on a beaucoup d'étudiants et des lycéens, c'est la période de la rentrée, ils ne sont pas encore très installés et il n'y a pas de sortie de classe. Mais sinon, c'est toujours plein.
Mais c'est vrai que quand on vient au théâtre de la Huchette, on est frappé de voir le public jeune, international et étudiant.
Oui, c'est encore une aventure parce que bon, ça fait 52 ou 3 ans maintenant. Donc, on a les étudiants, mais qui sont amenés par leurs professeurs, qui sont venus eux-mêmes étudiants. Et des fois, on en est à la troisième génération.
Ça crée des histoires incroyables.
Oui, oui. Et l'été, on a beaucoup de gens qui passent avec leurs enfants. Alors, beaucoup de touristes, etc., qui viennent et qui disent « Ah, on va t'emmener là. Moi, je suis venu il y a 30 ans, etc. »
C'est de vraies histoires qui se greffent autour de l'histoire UNESCO. Est-ce que vous avez connu Eugène Ionesco ? Vous l'avez rencontré ?
Oui, bien sûr. Oui.
Est-ce que vous pourriez nous faire partager un souvenir de théâtre avec lui ?
Oh, c'est difficile.
Comment était-il pour mise en scène ?
Il venait régulièrement, hein, il venait pas souvent, mais enfin régulièrement à la Huchette. Des fois, il allait dans la salle. D'autres fois...
Parmi les spectateurs
Oui. D'ailleurs, en 81, quand on a eu fait les travaux, qu'on a eu un régisseur, il est venu avec Rodica et le régisseur, au début, déchirait les tickets à l'entrée. Et il a vu ce couple. Là, il a dit, vous avez vos tickets? Ah non, on n'a pas de tickets. Eh bien, vous sortez, moi, je ne peux pas. Alors, Jeanne m'a dit, ah, il fait bien son travail, on ne peut pas entrer sans payer.
Il avait beaucoup d'humour.
Oui, beaucoup. Alors, très souvent aussi, il venait avec Rodica dans la loge, etc. Bon, oui,
non, donc, il était souvent, vraiment... il se sentait bien, tout simplement, dans ce théâtre, dans un territoire ami.
Oui, il y a des comédiens qui jouaient toujours depuis la création. Il y avait Nicolas Bataille, il y avait Marcel Cuvelier, il y avait Odette Barrois, qui avait connu ses débuts. C'était de sa famille théâtrale, de même que Mauclerc dans un autre théâtre, etc. C'était quand même sa famille avec qui il avait des liens d'affection. Oui.
Parce que le théâtre de la Huchette joue ses pièces qui sont les débuts de Eugène Ionesco au théâtre.
Oui, ce sont ses deux premières pièces et les deux mises en scène originelles.
Voilà.
Et d'autre part, je crois que ça contribue aussi à la longévité, c'est que c'est le seul petit théâtre du 5e arrondissement qui subsiste, alors qu'il y en avait 6 ou 7 à l'époque, au moment de l'éclosion du théâtre de l'absurde. Il y avait de nombreuses petites salles qui sont toutes devenues ou des restaurants ou transformées, etc. Il n'y a plus que la Huchette dans le 5e, et le théâtre de poche à Montparnasse, qui subsiste de cette époque.
Voilà, donc c'est un véritable héritage du passé et du présent. Et Eugène Ionesco, il venait au début, mais également par la suite.
Oui, puis alors, bon, on a fêté la 1000e, la 2000e, la 3000e, la 10e année, la 15e, la 20e. Alors, à chaque fois, on organisait des fêtes. Et évidemment, il était parmi nous. D'ailleurs, il y avait eu des photos de ces fêtes dans le petit livre.
Oui, dans ce livre, le fabuleux roman du théâtre de la Huchette, on voit effectivement de très jolies photos avec des acteurs prestigieux qui sont passés par le théâtre. Quels sont les grands comédiens à être passés par le théâtre de la Huchette, Jacques Legret ?
Ouais, d'abord, bon, avant le Ionesco, dans les tout débuts, c'est Georges Vitali qui avait la direction du théâtre et qui a fait des spectacles. Alors, il y a des gens comme Jacqueline Maillan, Pierre Mondi, qui ont joué là. Mais alors, dans la cantatrice et dans la leçon, vous avez la liste, il y a au moins 150 comédiens qui ont joué les 8 rôles des deux pièces. Alors, vous avez des gens aussi différents que Laurent Terzièvre, qui a joué le capitaine des pompiers, que Brigitte Fontaine, qui a joué Madame Martine, Monique Tarbès, Marcel Cuvelier, qui a fait la mise en scène de la leçon et qui a beaucoup joué le professeur, qui a eu une carrière au théâtre et au cinéma très importante.
Beaucoup de grands noms, donc. Vous-même, Monsieur Legret, comment êtes-vous arrivé au théâtre de la Huchette ?
Moi, je suis arrivé parce que j'étais élève comédien, que j'étais dans un cours très classique. Et puis, je suis venu voir la cantatrice, j'ai eu un choc, j'ai eu l'occasion de connaître Nicolas Bataille. Et c'est tombé juste au moment où il y a eu la première tournée de la cantatrice chauve et de la leçon en Scandinavie, en 61. Donc, il fallait une deuxième distribution à Paris. Donc, je suis rentré en 61 pour jouer le pompier pour 15 jours. Et puis après, comme j'étais là, le Pierre Frac qui jouait le pompier à l'époque a pris des vacances. Puis je l'ai remplacé quand il n'était pas libre. Et puis voilà, puis j'ai joué. Et puis après, j'ai repris Monsieur Martin et puis j'ai repris Monsieur Smith. Et maintenant, j'ai un peu joué. Et puis, comme j'avais eu le malheur de dire qu'avant de faire des études de théâtre, j'avais fait 2 ans de droit, quand il a fallu un directeur, on m'a dit, tu as fait du droit, tu t'y colles. Et puis voilà.
Voilà comment les choses nous amènent à la direction. Vous avez joué plus de 4500 représentations.
Près de 5000 maintenant.
De la cantatrice chauve. Quand on atteint un tel chiffre, est-ce qu'on n'est pas ennuyé ou blasé de jouer la même chose ?
Vous savez, ça fait 5000 en presque 50 ans. Ça fait 100 par an quand même. Ça va. Puis je me suis arrêté. Non, on n'est pas blasé. Puis on a l'honnêteté, si on se sentait ou fatigué, ou usé, ou blasé, d'arrêter. Il m'est arrivé de ne pas jouer pendant un an pour reprendre souffle. Puis on joue, une ou deux semaines de suite, on change. On ne joue jamais avec la même distribution exactement. Donc quand je joue Monsieur Smith, je n'ai pas toujours la même Madame Smith. Donc les rapports changent un peu et puis on reste sur le qui-vive. Non.
Donc on peut dire qu'en dehors de cette année donc de relâche, vous avez finalement toujours beaucoup apprécié de jouer cette pièce.
Oui.
Même en arrivant au chiffre de 5000 représentations, ce qui est quand même fou.
Oui, je crois. D'abord, c'est deux pièces. Enfin, moi, je n'ai jamais joué la leçon, mais la cantatrice est une pièce extraordinaire. Ce sont des rôles formidables. Puis, on a la chance maintenant d'avoir un public. Autant au départ, il fallait convaincre le public que ce qu'ils venaient voir, ça, c'était non seulement drôle, mais que ça avait un sens. Maintenant, les gens connaissent et savent ce que l'on joue. Donc, le contact avec le public est très agréable.
Par la suite, vous devenez l'assistant de Nicolas Bataille pour la mise en scène ?
Oui, très vite, parce que quand j'ai repris en 61, en même temps, on jouait le jour de relâche, à l'époque c'était le mardi, et on avait monté une pièce pour les mardis de la Huchette, une pièce de David Guerdon, la Buanderie, il m'avait demandé d'être son assistant, parce que sa mise en scène m'a toujours intéressé. Et puis après, j'ai été son assistant pendant des années. Et puis après, son collaborateur. Puis après, j'ai fait des mises en scène moi-même, etc.
Combien de mises en scène ? Parce qu'il y a un chiffre impressionnant, une bonne vingtaine.
Oui.
Au pied du mur, oui. Un chat est un chat, la divine farce, l'impromptu du Palais Royal, dernier tango dans la jungle, il y en a eu.
Oui, beaucoup, oui.
Et encore,
l'année dernière, j'ai monté une pièce de Michel Lem,
Tante Olga,
qui était pas un pastiche, mais à la manière de. Enfin, dans l'univers de Tchekhov, enfin, du théâtre russe en général.
D'accord. Comment vous imaginez l'avenir du théâtre de la Huchette ? Comment est-ce qu'il va évoluer avec ou sans vous, pour terminer cette interview ?
Écoutez, je ne sais pas du tout. Ça, je ne suis pas Madame Soleil, alors je ne vais pas vous dire. Je pense que le public existera toujours. Maintenant, évidemment, les comédiens vieillissent. Enfin, là, je viens de mettre en scène toute une nouvelle équipe de comédiens plus jeunes. Il faut qu'il y ait une relève.
Le théâtre restera toujours mythique.
Enfin, cette aventure, oui, cette aventure restera dans les annales, dans le Guinness des records, oui.
Et on a vraiment le sentiment que Ionesco est un auteur indémodable, inclassable d'une certaine façon, et surtout indémodable. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Oui, je pense, parce que les problèmes qu'il soulève dans ses pièces, en dehors du comique et du burlesque, c'est la vanité de l'existence, c'est l'angoisse de la mort, et l'espérance qu'il y a autre chose pour donner un sens à tout le monde, à tout cela. Mais bon, tant qu'il y aura des hommes, ces problèmes se poseront. Alors, je crois que la cantatrice Shaw peut continuer, la leçon aussi.
Alors, on souhaite longue vie encore, très très longue vie au Théâtre de la Huchette, au Théâtre de Ionesco et puis à tous les autres beaux théâtres de qualité. Et à vous, Monsieur Legret, merci beaucoup d'être venu dans cette émission. Et n'hésitez pas à retrouver toutes les émissions dédiées à Eugène Ionesco pour fêter le centenaire de sa naissance en 2009 sur canalacademy.com.